Et boum, les détricoteuses.
Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit qui existent pour de vrai.
Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
Un espace ouvert et en évolution que je parcours.
Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
C'est une parure que je porte, non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.
Comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes.
Je me dis, mais c'est trop con de pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Moi, je m'en fous de mes seins, quoi.
Non pas que votre avis soit pas intéressant, non, non. Il raconte plein de choses, votre avis.
Les Détricoteuses.
Une émission menstruelle
et participative.
Tous les premiers et troisièmes vendredis du mois.
À 19h sur JetFM 91.2.
C'est un attentat radiophonique.
Bienvenue dans les Détricoteuses. C'est la rentrée ce soir pour lancer la saison. On est en direct des Impertinentes. Yes. C'est déjà la 8e saison, fidèle à notre radio préférée, JetFM 91.2. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, j'explique le principe. On choisit des mots qui n'ont rien à voir avec le féminisme, exemple dauphin, et on propose à qui veut de s'approprier ce mot et d'en tirer les ficelles pour déconstruire les rapports de genre. On diffuse 3 créations par émission et on invite les personnes en plateau pour en discuter et présenter leur créa. Mais là, comme c'est la rentrée, on vous propose une émission un peu spéciale. C'est les Détrics qui s'y collent. Donc vous allez écouter des créations de Julie qui est à la technique, juste
bonsoir.
Derrière moi.
Bonsoir.
Valentine.
Coucou.
Qu'est-ce que tu bouines, Valentine, là? Je te vois faire des allers-retours.
Le on-air ne fonctionne plus, alors je suis un peu déçue.
Ah, ok.
C'est pas grave.
Bon. On a un décor super chouette pour ceux et celles qui nous écoutent sur JetFM, mais apparemment, on a des petits soucis techniques.
Ça y est.
Et on entendra aussi une création de Marianne qui n'est pas avec nous, mais qu'on embrasse très, très, très fort. Donc, on est ravis d'être là. Et cette année, on a décidé qu'on ferait plusieurs radios live en direct des Impertinentes, où on se trouve ce soir. Déjà parce que c'est un super projet de bar inclusif à Nantes, quartier République, pour ceux et celles qui nous écoutent. Mais aussi parce que ça fait du bien de sortir des studios de temps en temps pour rencontrer du public, les auditeuristes, c'est cool. Et ce soir, à J-730 de nos 10 ans, oui parce que en fait je compte les jours jusqu'à nos 10 ans, on est encore là pour dire que le patriarcat, c'est assez. Merci, j'ai un public. On ne fera plus le dos rond, c'est fini. On porte assez de choses sur nos épaules. On n'a pas le dauphin. Car on a la peau dure. Ne me remerciez pas pour cette intro subtile. Promis, je ne vais pas faire que des jeux de mots foireux. Flipper, arrête de flipper. Le dauphin, merveilleux cétacé, attendrissant, que je collectionnais, dont je collectionnais n'importe quel objet entre 1997 et 2005. C'est un peu celui dont personne ne se méfie car trop chopinou d'amour, alors que not all dolphins but lot of them. Viol en bande organisée, en groupe de mâles, des femelles qu'ils entourent à plusieurs en la harcelant jusqu'à épuisement pendant des interactions qui dureraient plus d'une heure en moyenne, mais aussi parfois des jours. D'ailleurs, les femelles ont plus tendance à nager en eau profonde pour éviter les groupes de mâles. Vous l'avez ? Il y a aussi même quelques cas de nécrophilie de mâles sur des femelles mortes. Bref, on pourrait dire que le dauphin mâle, c'est ton ex toxique avec son petit sourire que tout le monde aime, alors qu'en fait, c'est une grosse crevure. Bon, je fais des parallèles anthropomorphes, mais spoiler alerte, je pense qu'on va en avoir quelques-uns pendant l'émission. Vous saviez que les dauphins ont un gros front bombé parce que leur front contient ce qu'on appelle le melon, une cavité dans laquelle ils envoient de l'air et qui leur permet d'émettre des sons. Du coup, je m'identifie vachement parce que moi aussi, j'ai un grand front et j'ai aussi souvent le melon. Et puis le son, bah, ça, aux détricoteuses, on sait faire. Donc, des fois, je me demande si c'est pas un petit peu mon animal totem. À la base, je m'étais proposée pour un freestyle rappé sur cette thématique. Je me retrouve à faire un édito, ce qui m'arrange grandement, parce que quand même, dauphin, c'est quand même pas simple.
C'est pas qui a choisi ce mot, mais...
Je me demande ce qui nous prend de pondre des thématiques comme ça, en fait. Donc, je me suis dit, dauphin, je vais quand même pas parler du grand dauphin, Louis de France, fils aîné de Louis XIV et Marie-Antoinette.
Non.
Chiant comme la mort, quoi. Si c'est pour toujours parler des Bourges... Enfin, bon. Mais par contre, il faut quand même que je vous partage une info. Qui se souvient du dessin animé par applaudissement Lady Oscar ? Vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes deux. Ou sinon, La Rose de Versailles. C'était mon dessin animé préféré de la vie quand j'étais plus jeune, genre je devais avoir 6 ans, un truc comme ça. C'est d'ailleurs une mangaka, Ryoko Ikeda, qui est à l'origine de ce manga. Et c'est une fiction historique qui se passe pendant la Révolution où on suit la vie de Marie-Antoinette et son garde royal le plus proche, Oscar François de Jarget. Une femme travestie en homme, du fait que son père l'ait élevé comme un fils. Enfin, bref. Mais c'est quand même un dessin animé qui ouvrait quelques réflexions sur le genre à l'époque. Même si c'est chez les Bourges et qu'il y a une partie hyper fantasmée. De mémoire, il y a une petite intrigue lesbienne qui naît entre les deux persos. Voilà, on peut quand même se dire que c'est un peu précurseur pour l'époque. Mais bref, je m'éloigne du sujet parce que la raison pour laquelle je vous déroule tout ça, c'est que la meuf qui chante le générique français de Lady Oscar... Donc, garde rapprochée de Marie-Antoinette, mère du futur dauphin de France. Elle s'appelle comment ? Marie Dauphin.
Bravo !
C'est dingue, non ?
Digne d'une pirouette de dauphin en parc d'attractions.
Ah bah oui, non mais là, je vous ai fait une incroyable pirouette. Mais ce sont des vraies infos, hein, vous pouvez vérifier sur Internet. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, ne me remerciez pas. Vous allez peut-être gagner un petit camembert au Trivial Poursuite grâce à moi prochainement. Et nous, les détricoteuses, si on était un gang de mammifères, peut-être qu'on serait un gang de dolphines. Delphines ! Ah, on dit dauphine ou delphine ? Les deux sont acceptés, j'ai vérifié. Parce qu'on ferait preuve de sororité, bien sûr. Et parce qu'il paraît que chez les dauphins, les femelles s'entraident vachement. Et d'ailleurs, ça, on va pouvoir en écouter un petit morceau dans le sujet de Marianne, que je ne vais pas introduire, mais que Valentine va introduire, peut-être.
Que Valentine peut introduire. Alors, Marianne, elle n'est pas là ce soir. Elle a... Je crois que ce n'est pas nécessaire d'introduire son sujet. Je crois qu'il s'introduit tout seul. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ?
Ouais. Bon, on parle de sororité, quoi.
Ouais.
Quand même, il y a aussi des bons côtés aux dauphins. On va voir ça.
Voilà.
Chez les dauphins, la naissance n'est pas une affaire privée. Quand une femelle met bas, d'autres dauphines se rassemblent autour d'elle. Certaines la protègent des intrus, d'autres l'encouragent. Et enfin, elles aident le petit à remonter à la surface pour sa première respiration. Et puis il y a les jeunes femelles. Elles assistent à tout ça, elles observent, elles apprennent, et un jour ce sera peut-être leur tour. Bref, chez les dauphins, accoucher c'est une histoire collective. Si je vous raconte ça, c'est parce que l'an dernier j'ai eu la chance d'endosser ce rôle de sage dauphine. Mon amie d'enfance accouchait et nous étions deux à ses côtés. Charlotte, deux naissances derrière elle, savait déjà comment accompagner la douleur, et moi, sans expérience, mais avec ma présence, mes mots, mes bras disponibles et l'envie de rester là jusqu'au bout.
J'avais envie d'être là à ses côtés pour elle. Et après, je pense que pour moi, j'avais aussi envie de vivre cette expérience et d'être de ce côté-là. Après avoir vécu le fait d'être dans la position de la personne qui accouche, j'étais vraiment curieuse.
Un moment où l'expérience des unes se mettait au service des autres. Un moment qui disait que nos corps, nos savoirs, nos solidarités comptent autant que tout le reste.
Moi, j'ai ce souvenir d'une fluidité et d'une complémentarité entre nous trois assez ouf, quoi. On n'a pas eu besoin pendant au moins une heure de dire des mots.
Une heure ?
Non, mais le moment de la transe, là, ça a duré quoi ? Il y a deux heures, plus ?
Ouais, même plus, je pense.
Ah ouais. On ne se parlait pas. Enfin, je veux dire, c'était juste pour les seuls mots qui sortaient, c'était courage, c'est bientôt fini, machin. Mais c'était pas, vas-y, tu peux faire ci, vas-y, tu peux faire ça. C'était d'une fluidité et d'un naturel presque animal, quoi. Vraiment. Oui, on est là. Regarde, tout le monde t'écoute. Hein.
Et qu'on n'avait pas préparé en plus, parce qu'on
non,
a pu se préparer avant, mais on n'avait pas.
Non, ça, on l'avait pas. On l'avait pas préparé. C'était, ça s'est vraiment fait en mode sans réfléchir et ça s'est imbriqué comme, je sais pas, tu sais, comme quand tu mélanges des œufs, du lait, de la farine, ben ça fait des crêpes, quoi. Non, mais tu vois, T'es pas censé savoir que mélanger des œufs, de la farine, du lait, ça va faire des crêpes. Bah, ça fait un putain de truc méga bon.
Je crois que ce que je retiens le plus de l'expérience, c'est vraiment cette espèce de communion féminine qui, je crois, était vraiment amplifiée par le fait qu'on était trois, donc deux accompagnantes, et plus que trois avec aussi les sages-femmes. Qui ont fini par nous accepter, hein, parce que ça, c'est une question aussi. On n'a pas été très bien reçus au début, puis après, nous ont plus bien reçus, même si on voyait que ça les perturbait. Et donc, oui, ce que j'en retiens, c'est vraiment cette communion de femmes, quoi, une espèce de bulle, une espèce de puissance que j'avais jamais connue comme ça. Ça m'a vraiment fait penser à des films que j'avais pu voir quand... À l'époque, on pouvait aussi accoucher ou avorter entre femmes, que ce n'était pas des gestes médicaux de médecins, et que ça se traitait entre femmes. Et je l'avais lu, je l'avais vu à la télé, mais je ne l'avais jamais vécu. Et donc là, c'était vraiment cette expérience qu'on a fait ensemble, que j'ai trouvé vraiment incroyable et que j'ai vraiment senti comme quelque chose de particulier.
Ben, on s'est trouvé à nos places, quoi. Et moi, pour moi, ça, c'est la sororité. Je suis pas sûre que j'aurais eu le même sentiment avec un homme. J'en sais rien.
Avant ça, j'avais longtemps été dans le doute. Je ne me voyais pas avoir un enfant. Ou plutôt, je n'arrivais pas à coller avec l'image de la maternité que je me faisais. Dans cette salle de naissance, quelque chose comme le doute a dû se lever, parce que 3 mois plus tard, j'étais enceinte. J'ai accouché seule avec mon conjoint, et c'était super de vivre ça à deux. Mais pourquoi faut-il choisir ?
Je pense que c'est important pour le père, dans un couple hétéro, d'être présent pour, dans une étape importante de son parcours pour être père. Et encore, je pense qu'il faudrait les interroger là-dessus. Ça se trouve, on les force à être un endroit qu'ils ont pas envie, auquel ils n'ont pas envie d'être. Mais je pense que en termes d'utilité, de force pour la femme, être entre femmes... me paraît mieux correspondre, en fait. Je pense que c'est une question, en tout cas, qui doit être ouverte. Moi, je n'ai pas de réponse, je ne peux pas être catégorique, mais je crois que ça doit être un sujet de débat. Et je crois qu'on doit pouvoir oser poser cette question de la place du père. Faut-il qu'il soit là ? Est-ce que c'est ce moment-là ? Et est-ce que c'est pas un autre moment, en fait ? Bon, voilà, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, clairement, moi, je parle beaucoup de cette expérience en disant, en fait, c'est aussi possible, et on s'est empêché de penser cette possibilité-là dans les couples hétéros. Et il faut qu'on ouvre cette option-là, il faut que les sages-femmes, les médecins, ils l'ouvrent aussi, cette possibilité-là, et que ça devienne une option qui est dite, en fait, et qui ne soit pas tabou ou réservée à un cas de PMA solo.
J'aimerais rendre quelques moments de vie intense à l'amitié. À l'amitié ou au cercle de femmes, tout simplement. J'ai quand même eu ce cercle, juste après l'accouchement, là où je ne l'attendais pas. Sandrine, Anne, Céline, Charline... 5 jours à la maternité, une ronde de sages-femmes qui s'est relayée nuit et jour. Un banc de professionnels qui m'ont soutenue et rassurée. Et les voilà, les dauphines de notre monde terrestre. Elles tiennent la chaîne de transmission entre les femmes, alors même que tout le système semble vouloir la couper. En France, le nombre de maternités est passé de 721 en 2000 à environ 457 en 2023. On a médicalisé l'accouchement pour plus de sécurité et heureusement, on l'a ouvert au père et c'est une avancée. Mais dans le même mouvement, on a fermé la porte au côté collectif de ce moment de vie qui permettait une transmission vivante. Ça fait 2 mois que j'ai mon petit dauphino et quand je le regarde, je me dis qu'il est né de 2 héritages. Celui de mon histoire avec son père et celui de la sororité.
Êtes toujours au bar Les Impertinentes sur Jet FM 91.2 et c'était donc le sujet de Marianne sur le motothème dauphin, une version inspirante de l'espèce dauphin. Elle n'est pas toujours inspirante, cette espèce, mais on va voir une autre version peut-être de l'espèce avec le sujet de Julie.
Bah, peut-être qu'on peut vous faire réagir parce que... Alors d'habitude, on a l'habitude d'avoir les personnes qui viennent un peu nous présenter les sujets. Donc là, ce sera le cas avec Valentine et Julie. Mais on a un petit micro supplémentaire puisque Marianne n'est pas là pour en parler avec nous. Je ne sais pas si vous avez envie de peut-être poser des questions, même si on n'est pas sûr de pouvoir y répondre. Une question, me dit Julie à la technique, car nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais est-ce qu'il y a des réactions, peut-être, dans l'assemblée ?
Regarde, ils sont...
Oh là là, tout le monde regarde en l'air, personne ne veut réagir.
En tout cas, on peut juste dire peut-être que Marianne, elle avait précisé quand dans le sujet, ils disent qu'elles n'ont pas été très bien reçues au départ de ce fait d'être deux copines qui allaient faire l'accouchement. Qu'en fait, elles devaient répéter à chaque fois aux équipes, aux nouvelles équipes, pourquoi elles étaient là, qu'au départ, c'est là, mais elles vont venir avec toutes leurs copines ou quoi là. Enfin, et donc, il y a eu deux, trois équipes, il fallait tout répéter alors que c'était marqué dans le dossier médical, etc. Et qu'au bout d'un moment... C'est bon, ça a été bien accepté, tout s'est bien passé, notamment sur la fin et tout. Mais c'est, voilà, on voit bien que c'est quand même loin d'être une évidence et que même pour les sages-femmes elles-mêmes, c'est pas une évidence. Donc c'est cool d'en parler parce que c'est un sujet dont on parle très peu et que bah, ça donne des envies, quoi, d'accoucher ses copines.
Ah tu m'as
non,
fait
pas
peur
pas
de... pas... C'est un... non, d'accoucher une révélation copines. Surprise.
Voilà, bon.
Et donc, coup, Julie, on peut enchaîner, ton
oui.
sujet.
Donc, ah, oui, Julie, moi, beaucoup moins reluisant sur les dauphins. Mais en ce temps un peu maussade, j'ai voulu revenir un peu sur mes vacances, parce que mes vacances, elles se sont terminées il n'y a pas si longtemps. Et j'avais mes lunettes de soleil, mais qui étaient quand même mes lunettes féministes. Je n'ai pas réussi à les enlever. Du coup, j'ai analysé un peu mes vacances avec voilà, un petit spectre un petit peu particulier. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez découvrir.
Les dauphins de ruisseau sont amateurs d'eau profonde, chaude et tempérée. Ce sont des cétacés grégaires qui vivent en bande de 10 à 15 individus. Dotés d'un corps robuste, ils sont reconnaissables par les nombreuses cicatrices qui marquent leur robe, marques dites sociales, qu'ils s'infligent entre eux en se battant. Pas si feng shui que ça le dauphin. Son observatoire dans le sanctuaire est régulier toute l'année, mais rarement dans le golfe d'Ajaccio.
Ah, bah voilà pourquoi j'en ai pas vu. Ah non, mais parce que cet été, j'étais sur l'île de Beauté, la Corse. J'ai pas vu un dauphin, rien. Par contre, j'ai pu observer une autre espèce à laquelle je ne m'attendais pas, bien plus dangereuse, en milieu hostile, et celle-ci en pleine voie d'expansion. Vous voulez que je vous raconte ?
Le poids du sac. Le poids du sac, du patriarcat.
Il y a quelques semaines, j'ai fait une partie du GR20, considéré comme le chemin de randonnée le plus difficile de France. C'est la traversée du nord au sud de la Corse. Il y a environ 20 000 départs chaque année pour plus de 40% d'abandon. Il est découpé en 16 étapes, donc 16 jours. Avec mon ami Gary,
salut Julie, c'est Gary.
On a décidé de faire la première moitié en distance, pas en jour, en autonomie, en commençant par le sud, à l'inverse de la traditionnelle traversée du nord vers le sud. C'est la partie facile. Vous voyez pas mes doigts, mais ils font des gros guillemets. Facile, ça veut dire 7 jours, entre 4h30 et 7h de marche, sans compter les pauses, mais en comptant des kilomètres de dénivelé, positif et négatif, des passages vertigineux, en escalade ou des escalades sans accroche, le poids du sac, qu'on estime autour de 10-11 kg, la météo, moyennement favorable en ce qui nous concerne, avec des rafales de vent à environ 90 km/h, voire plus. La facilité est donc toute relative. C'est là que nous sommes tombés sur cette espèce banale, commune et pour le moins dangereuse. L'homme cis.
Je dirais même plus cis hétérosexuel.
Une espèce compétitive, grégaire, qui se déplace de 2 à 7 individus. Dotés d'un corps robuste, ils sont reconnaissables par les nombreuses cicatrices qui marquent leur corps, marques dites sociales qu'ils s'infligent en se battant. Chelou. L'homme cis-hétérosexuel s'épanouit en milieu patriarcal. Il n'accepte ni la remise en question, ni la défaite. Tout cela le pousse, malgré les signaux qui clignotent autour de lui, à dépasser les limites, à forcer, à ne pas s'écouter, ne pas écouter, et aller plus loin dans sa connerie pourtant déjà fortement développée. En effet, nous avons pu observer un nombre majoritaire de groupes d'hommes cis hétérosexuels qui ont doublé, triplé, voire quadruplé les étapes pour faire le GR20 en un minimum de temps.
Ça m'a mis la puce à l'oreille parce qu'ils étaient là à parler du nombre d'étapes qu'ils réussissaient à faire en une journée. Pas du paysage, ni des vues, ni des rencontres. Non, du nombre d'étapes. Ils avaient doublé, triplé, quadruplé.
Alors, juste pour que vous vous rendiez compte, ça veut dire faire 12 heures de marche par jour, on imagine au moins commencer à 3 heures du mat et faire environ 3 heures de nuit à la frontale, possiblement sur des crêtes. Le tout accroché à leur montre connectée qui calcule en direct le nombre de dénivelés, la moindre seconde dépassée, mais bizarrement pas le taux d'inconscience inconsidérée. Non mais encore, s'ils y arrivaient, mais ils n'y arrivent pas.
Et puis le troisième jour, il y a eu ces deux types qu'on a croisés sous la pluie. Eux, ils étaient partis le matin même de Conca, donc notre première étape. Et celui à l'arrière, il soufflait mais comme un bœuf. On a appris plus tard sur le chemin qu'ils voulaient faire le GR en 4 jours. On a appris aussi qu'ils ont dû arrêter en cours de route.
Résultat des courses, un nombre très élevé d'abandons, de blessés, boiteux, strappés de partout, de hâte d'en finir, de traumas physiques et psychologiques. Pour vérifier ces constats, nous avons fait appel au major de la PGHM, le peloton de gendarmes de haute montagne. C'est eux qui sont en charge des sauvetages sur le fameux chemin de randonnée et à qui nous avons demandé quelques chiffres.
Par exemple, en 2024, sur la Corse dans sa globalité, on a fait 256 interventions, ce qui correspond à 328 personnes secourues. Et là, actuellement, en 2025, on est à 214 interventions. Là, au moment où on se parle. Vous voulez, il y a 90% de ces interventions qui se produisent entre avril et octobre.
Il faut savoir que ces chiffres, c'est que sur 6 mois donc, et la moitié du temps. Car ils se partagent une semaine sur deux les sauvetages avec les pompiers. Donc, on peut imaginer quasi le double d'interventions, donc environ 500 pour peut-être 600 personnes sauvées. La question en suspens, c'est est-ce qu'il y a une majorité d'hommes ou de femmes ?
Je vous avoue que c'est la première fois qu'on pose la question.
Je sais, je suis une précurseuse.
Non, mais il faut.
Ta-da-da, roulement de tambour.
Allez, le mois d'août 2024, par exemple, là oui, il y avait une majorité d'hommes, effectivement. Ouais, on avait une majorité d'hommes. Du 60-40, si vous voulez.
Et ça coûte combien de faire sortir l'hélico pour un sauvetage ?
Alors, le secours en montagne est gratuit en France pour l'instant. Hein. Donc, une heure d'hélico, c'est 8000 euros payés par le contribuable français. Quoi.
On n'oublie pas que ça doit être à peu près le même coût pour nous surveiller en manif. D'après mes calculs, ça fait plus de 2 millions d'euros par an juste du côté des gendarmes, c'est-à-dire 1 200 000 euros dégagés pour sauver les hommes et 800 000 euros pour les femmes. Je peux malheureusement pas vous parler des personnes trans puisqu'elles n'apparaissent dans aucune statistique. Ça veut dire que les femmes coûtent 400 000 euros de moins à l'État. Le coût de la virilité. Juste parce qu'elles sont raisonnables et à l'écoute. Parce qu'on leur a appris à être raisonnables et à l'écoute. Avec ces 400 000 euros par an, on pourrait faire plein de trucs. Je vous laisse imaginer. L'homme cis, hétérosexuel et individualiste évolue également pleinement en zone capitaliste et consumériste aride.
Là, dernièrement, on est allé secourir une dame de 72 ans, toute seule, de nuit, qui avait été plus ou moins abandonnée par ses compagnons de randonnée. Et les autres randonneurs qui l'ont croisée sur l'étape, jusqu'à 17 heures, voire plus, ils l'ont laissée comme ça, toute seule. Elle était complètement désorientée. Quoi. Et nous, on l'a sortie, il était 23 heures, dans des conditions de vent abominables. Ouais. Elle n'aurait pas passé la nuit dehors. Quoi. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Et il y aurait des randonneurs qui l'auraient pris avec eux, qui l'auraient ramené sur un refuge ou quoi. Mais maintenant, voilà, il y a une dame qui est là en permission, on va la laisser là. Et ce qu'il y a d'encore plus rageant, c'est quand on vous appelle donc à une heure assez tardive en vous disant « Ah, en fait, on a croisé une dame là-haut, elle était pas bien du tout. Ah, ok, d'accord. On fait quoi maintenant ?» Ah, parce que les premiers secouristes, c'est les gens qui sont sur place. Tout le temps qu'on se déplace, etc., il ne faut pas que ce soit vraiment une urgence absolue.
C'est la première fois que j'ai envie d'écouter un gendarme. Ça fait bizarre.
En toute humilité, déjà, quand on randonne, on reste ensemble. Quand on est en groupe, on ne se sépare pas. On s'adapte au niveau du plus faible. faire demi-tour si les commissions météo sont pas réunies. Il faut savoir être raisonnable.
Et c'est la première fois que je suis d'accord avec un flic. Ça, ça fait vraiment bizarre. Je propose qu'on supprime tous les gendarmes de France, sauf les sauveteurs de haute montagne. Et ce qui est problématique, à mon sens, c'est la perte de l'esprit de la montagne, que j'aime tant. Prendre le temps, se déconnecter du reste, pour permettre un retour à soi. Et oui, bien sûr, il y a un défi physique et mental, bien sûr, mais en étant humble face à cet élément qui fait pas de cadeau. Et à se sentir petit face à la beauté de la planète. Alors je m'inquiète de cette société patriarcale capitaliste qui va jusqu'à prendre aussi ses territoires inhabités et modifier les mentalités.
À la fin de notre périple, on a eu la confirmation de notre hypothèse en rencontrant ces deux gars cis qui abandonnaient parce qu'ils avaient fait trop les bourrins et qu'en fait il y en avait un des deux qui avait la peau des pieds arrachée tellement ils avaient fait d'étapes en une seule journée. Nous, ça nous faisait un peu rire parce que finalement, on avait fait notre rando comme on avait envie. Et eux, ils étaient deg parce qu'ils n'allaient pas au bout de leur défi, quoi. Et là, je me suis dit, eh ouais, t'avais qu'à pas faire le couillon.
Finalement, je regrette pas de pas avoir vu de dauphins. En plus, il paraît que c'est des violeurs. C'est fou, toutes ces similitudes, quand même. Franchement, je préfère avoir vu des baleines. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Je vous raconterai.
Vous êtes toujours dans les détricoteuses, on est en direct des impertinentes et on détricote le mot dauphin ce soir. Merci Julie pour ton sujet.
Je vous en prie, quelle drôle d'espèce as-tu rencontré là Julie?
Mais oui, j'étais moi-même la première surprise, pourtant j'ai l'habitude, mais là c'était vraiment notre niveau quoi.
Te remercie en tout cas pour ces petits conseils de gendarme, c'est adorable.
Et gros bisous Gary, on t'aime, tu nous manques, tu es avec nous chaque jour.
Tu participes régulièrement des tricoteuses aussi d'ailleurs.
Oui, ça faisait plaisir d'entendre sa voix. Est-ce que tu voulais peut-être plus développer ou on peut peut-être passer, est-ce que vous avez des questions, des réactions dans le public? Tout le monde me fait des gros yeux à chaque fois que je vous interroge pas, hein, c'est pas l'école. Hein. En tout cas, on a eu...
On peut s'intéresser
aux chiffres.
Voilà, au coût de la virilité, c'est une notion intéressante. Ouais.
Oui, j'ai repris ce terme d'un livre qui existe et qui a ce même titre.
Qu'on n'a pas lu encore, comme tous les livres qu'on cite dans les détricoteuses.
Qu'on n'a pas lu, mais que j'ai écouté parler quand même. Mais ça fait un moment qu'il est sorti, ce bouquin-là. C'est l'autrice, c'est...
Lucille Pétavin. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Il est sorti en 2021. Et du coup, on a regardé un peu. C'est vrai, je reconnais que je ne l'ai pas lu non plus. Mais
on a extrait les chiffres qui validaient nos hypothèses. Voilà.
On fait un livre... qui s'appelle « Le coût de la vérité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes ». Et elle estime à 95,2 milliards d'euros par an les économies qui pourraient être réalisées. Et donc, elle, voilà, après, elle décline. Il y a 96,3% de la population carcérale qui est masculine, 83% des mises en cause en justice, 99% des auteurs de viols, 84% des auteurs d'accidents mortels. Et 88% des auteurs d'homicides. Il manque quand même cette statistique des foufous en montagne. Oui. Donc, on peut considérer que c'est sous-estimé.
Ce qui est marrant quand même, c'est que... du coup, il dit que je suis la première qui lui ai posé la question. Mais c'est marrant parce que quand il répond, il dit « Effectivement... » Moi, je ne lui ai pas demandé s'il y avait plus d'hommes. J'ai dit « Il y a plus d'hommes ou de femmes. » Et lui, il dit « Effectivement, il y a plus d'hommes. » Comme s'il avait déjà intégré le truc. Parce que oui, ils ont quand même des comportements qui sont beaucoup plus à risque que... c'était flagrant en marchant, c'était flagrant. Et c'est flagrant de voir aussi comme ils étaient plus nombreux, en fait, comme ils étaient en bande, vraiment, alors que du coup, les femmes étaient plutôt en petit comité. Enfin, voilà, il y avait un truc qui était très flagrant, et du coup, on a commencé, voilà, pas à compter, mais en tout cas, à vraiment faire attention à ça, et voilà, ça nous faisait marrer. Et puis, voilà, je me suis dit que j'allais faire un sujet là-dessus, mais c'était quand même tellement flagrant que, voilà. Et moi, je fais beaucoup de montagnes, et j'ai déjà remarqué évidemment des comportements comme ça, mais jamais à ce point. Et là, je pense que c'est parce qu'il y a justement, il est considéré comme le chemin le plus dur. Donc, il y a un défi de le faire encore plus avec des gens qui n'ont jamais fait de montagne et qui vont le faire là. Et comme c'est 16 jours, c'est un peu long, et ben, les gens ils disent je vais le faire en.
C'est 16 jours et ils voulaient le faire en 4.
Les plus fous. Sinon, la plupart. Sinon, la plupart, c'est en 10, 11 jours, quoi. Ce qui est déjà énorme. Enfin, nous, on a suivi pile poil les étapes, et ce qui est déjà bien. Et en plus, pareil, on intériorisait qu'on faisait des petites étapes. Alors qu'en fait, on faisait les étapes. Et en fait, voilà. Donc, nous, on n'a pas eu de problème. On allait jusqu'au bout. Pas un problème physique et psychologique.
Je tiens à le dire.
Ça, c'est nous qui l'évaluons si tu n'as pas de problème psychologique, Julie.
Pendant la rando, je veux dire. Après, le reste ne nous regarde pas. Mais...
Moi, j'ai un petit chiffre aussi que j'ai sorti de mon chapeau pour valider nos hypothèses. Sur un rapport en plus qui date de 2017-2018. Donc, désolée, je n'ai pas trouvé plus récent. Mais un rapport de Santé publique France qui parle justement des décès traumatiques, tous sports confondus. Et sur 810 décès, donc autour de cette période-là, hein, faudrait voir si ça a un peu évolué, 714... étaient des personnes considérées comme hommes. Hein. Généralement, comme tu dis, les personnes trans ne sont pas du tout dans les statistiques. Donc 714 hommes et contre 95 femmes, voilà, dans les sports montagne, aqua, air moteur, etc. Le chiffre que je n'ai pas, c'est le nombre de personnes qui fréquentent, voilà, qui fréquentent ce type de sport selon les genres. Je ne l'ai pas, mais on a quand même une grosse proportion masculine de décès traumatiques, voilà, et de surmortalité pour cause de, avec des décès évitables, quoi, en fait. Ce sont des décès évitables. Après, qui meurt, c'est...
Oui, mais alors, le truc aussi, c'est là, c'est que quand même, ils mettent aussi en danger les secouristes. En fait, oui. C'est ça, là, et je ne l'ai pas mis dedans, mais en fait, il y a des fois des conditions qui sont tellement, genre, avec un vent énorme et tout... qu'en fait, eux, ils sont mis en danger aussi. Donc, en fait, c'est ça, ils ne se mettent pas en danger tout seuls. Des fois, ils mettent en danger un groupe, des fois, enfin... En fait, c'est ça, c'est que ce n'est pas que individuel, quoi.
Voilà. C'est vrai.
Une petite pause de douceur pour transitionner. On va écouter La Drache, qui est un collectif des musiciennes qui viennent de Bruxelles. Et qui, voilà, Obstilt, je ne sais pas comment ça se dit, le titre. Tu peux y aller.
Si, si, pi, pi. Si, si, pi. Oui. Assemble. Thy. Rebels. To. Hold. Oh. Oh. See, he, see, see, he, see, see, we are set and all thy rebels to hold, oh, hold. See, see, he, see, see. We are set and all thy rebels to hold. Though we evening with go, oh, oh, though we evening with go, oh, oh, we chapter, chapter, chapter. We chapter, chapter, chapter. We chapter, chapter, chapter. We chapter, 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 chapter.
toujours dans les détricoteuses sur Jet FM 91.2 à Nantes, mais également cette année, diffusée également sur Radio Méga à Valence. C'est nouveau, alors on est contente quand même. Et encore, ça reprend et j'ai un petit problème de boucle. On va passer au troisième sujet de la journée, de la soirée, autour du mot dauphin. Valentine, tu nous as concocté une petite création aussi.
Oui, j'ai eu un petit... Il m'est arrivé un petit truc désagréable dans l'été.
Ah.
Et j'ai décidé de vous en parler.
C'est bien, il faut en parler. Eh bien, on vous laisse écouter.
Ça sera un son brut. Une voix, légèrement enrouée, et des silences. Rien ne viendra altérer votre écoute. Il vous faudra être attentive. Ça ne brillera pas. Ainsi, vous ne serez pas ébloui. Du rouge et du bleu. Une petite fille rencontre un gros crocodile. Ils se battent. Le crocodile veut manger le repas de la fillette. Elle lui plante une fourchette dans le corps. La petite fille a gagné. Fin du chapitre. Une pièce toute bleue, du sol au plafond. La petite fille est dans son bain et se savonne tranquillement. Soudainement, une grosse queue verte surgit depuis le fond de la baignoire, entre les jambes de la gamine. La queue pointue se lève vers le plafond et s'entortille en son bout. L'enfant n'est vraiment pas contente. La queue grossit encore, la petite fait la tête et quitte le bain. Manifestement agacée, elle sort l'animal de la baignoire en le tirant par la queue de toutes ses forces. C'est le crocodile. L'animal finit sur le carrelage bleu, en position fœtale. La petite fille fait les gros yeux à la bête, puis retourne dans son bain. Le croco la regarde se laver, avec un petit regard de crocodile battu. Il insiste. Il veut vraiment aller dans le bain. En plus, il a froid. La fillette est exaspérée, mais le crocodile fait les yeux doux. Il a vraiment froid. Il parle d'une toute petite voix. Les deux finissent ensemble dans la petite baignoire. Le crocodile savonne le bras de l'enfant en lui tenant la main. En bas, à droite, sur le carrelage bleu, un petit canard en plastique s'en réjouit niaisement. Fin du chapitre. Une pièce toute rose, du sol au plafond. C'est l'heure du dodo. La petite fille borde ses doudous. « Dormez bien, dit la fillette. Mais quelqu'un rompt le silence de la nuit. Et moi ?» La petite fille rallume la lumière. C'est le crocodile. Il est sous le lit et demande l'hospitalité. La petite fille a bordé les doudous mais n'a pas bordé le crocodile. Le croco est jaloux. Un crocodile dans le lit? Les doudous sont contre. C'est hors de question. Il fait trop peur, crient les doudous. Le crocodile fait une moue supplicative. Il a très envie de dormir avec la petite fille. La petite fille accepte. Après tout, l'autre jour, il l'a gentiment savonné dans son bain. Le crocodile se couche sous la couette, prend toute la place dans le lit, tout serré contre l'enfant. Sa grosse gueule phallique repose désormais sur la couverture. Il faut s'imaginer un gros monstre vert allongé dans un lit avec une tête en forme de bite. Littéralement, une grande gueule en forme de bite avec deux gros yeux globuleux élégamment posés sur la couette de l'enfant. Enfant qui n'en demandait pas tant, mais qui finit par apprécier le monstre à force d'insistance. Collé serré contre le dauphin crocodile sous la couette rose bonbon, la gamine sourit dans son sommeil. Fin du chapitre. On pourrait croire que cette histoire est un mauvais scénario de livre d'horreur, mais pas du tout. Cette histoire est un livre pour enfants, qu'une spécialiste de littérature jeunesse a mis dans les bras d'une enfant de 3 ans, il y a 2 mois, en 2025, en décrivant une merveille, je ne mens pas, une histoire d'amitié entre une petite fille et un crocodile, avait-on entendu. Le nouveau livre est beau, épais, style roman graphique pour enfants de 3 ans, avec un texte écrit en majuscules et de jolies illustrations. La couverture brille. Le format donne envie. Le jour de la première lecture, l'adulte est stupéfaite, horrifiée, mal à l'aise. Mais l'enfant adore le livre. Elle veut savoir la suite. On dit que la littérature est merveilleuse. C'est vrai. Mais c'est aussi assez effrayant ce que l'on peut créer comme récit toxique, sans même que les libraires, l'autrice, les lecteurs et lectrices ne s'en rendent parfois compte. Si on avait cherché à réaliser un manuel pratique de l'enfant abusé, on n'aurait pas fait mieux. Une longue gueule de crocodile en forme de bite qui amadoue une petite fille pour qu'elle la laisse rentrer dans son bain. Des yeux globuleux en forme de couille qui supplient une gamine de la laisser coucher dans son lit. C'est agaçant à force la répétition des scénarios. Alors je m'excuse de ne pas mettre les formes. C'est pourtant beau de faire les choses avec style. Ça sera un son brut. Mais parfois ça peut aussi illusionner, endormir,
poétiser l'horreur. Rien ne viendra altérer votre écoute. Une simple voix entrecoupée de silence qui parle bite et couille, ça ne brillera pas. Avec un peu de chance, ça réveille un peu. Ainsi, vous ne serez pas ébloui.
Merci Valentine. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça t'est arrivé, c'est autobiographique ce qu'on vient d'entendre.
Oui, j'ai une petite fille de 3 ans et demi et bah, je me suis retrouvée dans cette situation cet été. J'étais sur la plage à découvrir ce livre que la libraire m'avait brièvement feuilleté le livre quand même.
Et t'avais pas demandé à la libraire en plus quelque chose vraiment autour de... Du consentement ou je sais pas quoi ?
Juste avant, mais c'était oui, dans la même enfin c'était juste avant. Oui, parce que du coup ma fille rentre à l'école et donc je lui avais posé la question de si elle avait des livres à conseiller, plutôt des fictions et autour de cette notion du consentement, pour enfin voilà, mais de manière subtile. Et elle m'avait orientée vers des espèces de petits atlas et tout qui m'avaient pas convaincue. Et donc quand je lui ai demandé, mais alors qu'est-ce qu'il y a comme livre chouette, voilà, est-ce que vous avez quelque chose à me faire découvrir de chouette pour une enfant de 3 ans et demi? Eh bien, elle m'a proposé...
Donc tu peux nous montrer le livre quand même, parce que tant qu'à vous ne l'achetiez pas.
Enfin, oui, ne l'achetez pas. Je ne sais pas quoi en faire, c'est une vraie question. Que faire de ce livre? Enfin, vraiment, c'est une question que collectivement on peut se poser. Donc voilà, il ressemble à ça. Et c'est un peu sous forme de petites histoires. Enfin, il y a un petit côté un peu série qui est assez chouette. Enfin, moi, je trouve que le format est assez chouette. Beaucoup plus chouette que le contenu. qui pose problème. Ça finit comme ça, la petite histoire du bain. Et je vais vous montrer le... Pardon pour les auditeurs, oui. On est désolés.
Le crocodile est dans le bain, c'est ça?
Bah, c'est ce que tu décris dans ton sujet. Là, tu nous montres juste les images que tu décris dans ton sujet.
Oui, effectivement. Enfin, bon, bref, on n'est pas obligé de regarder. Voilà, voilà ce doux moment où l'enfant dort avec ce beau crocodile. Enfin, je ne sais pas, peut-être que... Alors, à un moment, je me suis demandé, en fait, ça m'a beaucoup préoccupée dans l'été. Et du coup, j'en ai parlé à beaucoup de gens parce que... Bon, j'ai commis une imprudence. J'aurais dû lire le livre avant de le découvrir avec ma fille. Je l'aurais dû le regarder de manière plus posée. Mais j'ai un peu fait confiance et puis voilà. Mais je me suis dit, si elle, comme c'est une librairie jeunesse et tout, si elle me le conseille, qu'elle me dit que c'est un coup de cœur, c'est qu'il y a peut-être qu'il y a, au début, j'ai remis en question ma propre lecture du livre, parce qu'en plus, enfin voilà, en plus c'est une édition qui vient de sortir. Alors après, j'ai compris qu'en fait, c'était plein de petites histoires c'est une édition complète de plein de petites histoires qui sont sorties depuis les années 2000. Mais moi, je pensais qu'en 2025, c'était quand même compliqué pour un éditeur d'éditer quelque chose, qui raconte ça, quoi. Enfin, en fait, je me suis quand même demandé ce que ça racontait à un enfant de 3 ans.
Ouais, moi, les critiques, je suis allée voir un petit peu, chercher voir ce que les critiques disaient des gens qui avaient pu lire le livre, qui aimaient bien. Enfin, moi, j'ai vu que des trucs positifs. Et du coup, les gens disent « Ah, mais la petite, elle a un caractère bien trempé. Genre, c'est une petite fille qui a du caractère. » Mais moi, je l'ai lu aussi, le livre. C'est vrai qu'en fait, derrière tout ça, il y a quand même autre chose qui est quand même assez problématique.
Mais vous pensez pas, tu ne penses pas qu'elle ait répondu à ta... Que ça pourrait pas être ça, le sujet de cette histoire? Enfin, je sais pas, moi, je n'ai pas vu comment c'était construit et écrit, mais
en fait,
vu que tu lui as parlé du consentement, ce serait pas une manière de parler du consentement aux enfants?
Alors, elle m'a dit que c'était un coup de cœur du moment, machin, une nouvelle édition, donc je sais pas si ça avait un rapport, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis posé la question longtemps, et que franchement, au regard de la réaction de la petite fille, elle est vraiment énervée, elle a pas envie que le crocodile vienne dans le bain, enfin, il y a plein, vraiment... Elle est dessinée comme quelqu'un qui vraiment finit par se soumettre, alors qu'elle n'a pas envie, quoi. Et donc, en fait, ça parle de... Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça parle de la différence, de la tolérance. Et je pense que... Enfin, je ne remets même pas en question l'intention de l'autrice, en fait, au moment où elle l'a fait. Mais par contre, je suis surprise que... Enfin, moi, en tout cas, je suis très gênée avec ce livre. Je me suis retrouvée à ne pas trop savoir quoi en faire. Au début, je me suis dit, je vais le donner. Après, je ne peux pas le donner. Après, je me suis dit, je vais déchirer les pages qui sont problématiques. Et en fait, ça ne me plaisait pas trop. Bon, déjà, j'avais peur que ma fille se mette à déchirer tous les bouquins. Enfin, voilà. Et puis, voilà. Et ce que je n'ai pas fait, qu'il faut absolument que je fasse, c'est contacter cette libraire. Là, vraiment, c'est ma faute. Je me le dis depuis 2 mois et je ne l'ai pas encore fait. Faut vraiment que je lui dise. Voilà, mais en fait, je voulais aller la voir et en fait, je vais arrêter d'avoir cette intention que je ne fais pas. Je vais lui écrire pour lui dire ce que ça a créé chez moi. Mais du coup, je l'ai montré à plein de gens, notamment des personnes qui travaillent dans le périscolaire, machin, pour me rassurer de ma lecture en me disant, mais est-ce que c'est moi qui est complètement tordu dans ma lecture ou est-ce que vraiment... C'est compliqué de raconter ça à un enfant de 3 ans.
Bon, juste, vous n'avez pas cité le titre du livre. C'est exprès, non, ou c'est juste dire, pour que les gens n'aillent pas le voir. Mais c'est bien particulier de parler d'un livre qu'on ne cite
oui,
pas.
Oui, pour les gens en plus qui ne sont pas là.
Ouais,
c'est...
ouais c'est après, ouais. Voilà. Ça s'appelle Touzouza. Non, mais je suis un peu... Ça s'appelle Touzouza. Et c'est Anaïs Vauglade, l'autrice.
Qu'on vous déconseille, mais il y a plein de listes quand même qui existent.
Après, elle a fait d'autres livres. Je me suis rendu compte que ma fille a d'autres livres dans sa bibliothèque d'elle qui sont sympas. Donc je ne veux pas non plus l'accabler. Hein.
Mais contacte l'autrice au lieu d'appeler la libraire. Enfin, contacte l'autrice.
L'éditeur,
en fait.
Ouais. Bon, je vais m'atteler à ça. En tout cas, on m'a juste, pour conclure, on m'a fait une réflexion. Enfin, on m'a fait une suggestion intéressante récemment, cette semaine. Quand je parlais de ça, quelqu'un m'a dit mais en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te serves de ce livre. Tu écrives, tu dessines avec ton enfant, tu te serves du livre pour justement traiter ce sujet, mais sans laisser. Mais non, mais laisser les pages comme ça, moi, ça me
ou
pose
en discuter
problème.
Avec elle, dire que
ouais,
là,
mais en
justement,
discuter, j'ai essayé, mais elle a 3 ans et demi, j'ai peur que je bon, ouais, oui.
Et eh ben en tout cas, merci Valentine pour cette non recommandation.
cette anti chronique littéraire.
Et c'est à ton tour, Marjo.
Oui, ben alors. Je vous ai préparé un petit quiz auquel vous allez jouer par applaudissement parce que je ne savais pas comment rendre ça radiophonique et pratique à la fois. Donc, on va partir d'affirmations complètement orientées. Et puis, et puis voilà. Bon, je commence. Je commence mon animation. Alors, bah, vous allez
faire.
Je viens de l'expliquer. Les personnes vont répondre par applaudissement.
Ah, okay.
Laissez-vous guider. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Qui pense, par applaudissement, que les delphines n'ont pas de clitoris ? Tout le monde est bouche bée. Donc tout le monde pense que les delphines ont un clitoris ? Eh bien oui, bien sûr, les delphines ont un clitoris. Et outre les primates, les dauphins sont l'une des principales espèces utilisant le sexe pour créer et maintenir le lien social. Et ils ont des relations sexuelles, y compris entre mâle-mâle et femelle-femelle, pour maintenir ces liens sociaux. Et souvent, on peut constater que les femelles se frottent contre le sable, et parfois en groupe. C'est réel, hein, ce sont des vraies infos. En utilisant leur museau, leur nageoire, etc. Et en fait, on a constaté que... Les scientifiques, par le biais humain qu'ils ont, donc voilà, et masculin par ailleurs, mais ont quand même conclu que les delphines se provoquaient du plaisir pour maintenir leurs liens et se sentir bien, quoi, enfin pour du bien-être, enfin se masturber en fait finalement,
il existe un mot.
Oui, bien sûr, il existe un mot. Et sur le tissu érectile, qu'en fait, c'était similaire à le clitoris ou le pénis humain. Enfin, c'est quand même une vraie info. Je vais vous en apprendre énormément de choses sur les dauphins. Autre chose, par applaudissement. Les animaux sauvages... c'est vraiment très orienté. En fait, je veux juste faire une chronique, mais je voulais vous faire participer. Les animaux sauvages ne connaissent pas le patriarcat. Applaudissez si vous pensez que c'est réel. Alors, il y a quelqu'un qui a applaudi des toilettes. C'est merveilleux. Vous ne pouvez pas l'entendre, mais c'est merveilleux. Alors, on ne peut pas attribuer des intentions féministes chez les animaux, puisqu'on ferait de l'anthropomorphisme. Donc, c'est-à-dire attribuer aux animaux des choses qui sont réservées aux humains, enfin des comportements qui sont réservés aux humains. Mais selon donc une journaliste qui s'appelle Yolaine Delabigne, qui a bossé sur RTL, France Info, tout ça, en vrai, je la déteste parce que c'est une universaliste de fou et j'aime vraiment pas sa vision du féminisme. Mais elle a quand même écrit sur un livre qui s'appelle « L'animal féministe, genre, consentement, pouvoir » et c'est quand même intéressant sur les questions
de comment on peut penser le féminisme, mais à travers, enfin, comment on peut penser autrement les thématiques féministes, avec, en observant les animaux, quoi, en gros. Et donc, les êtres humains ayant tendance à interpréter la vie des animaux avec l'empreinte du regard masculin, évidemment, on a souvent pensé les mâles très majestueux. Il y a du dimorphisme sexuel, en fait, chez les animaux aussi. Donc, on voit beaucoup les mâles comme beaucoup plus forts et les femelles des choses plus passives et ternes et fragiles. Ça me fait penser à un sujet que tu avais fait, Joanne, une fois sur la vision masculine de la science. Et donc, en fait, on pense que les ornements, par exemple, sont portés par les mâles, alors que ce n'est pas tout le temps le cas. On a récemment observé que certaines femelles, enfin, certaines espèces d'oiseaux, les femelles pouvaient chanter, alors qu'on pense souvent que ce sont les mâles. Je vais arriver aux dauphins, hein, bientôt. Et donc, on a observé... qu'est-ce qu'on a observé chez les dauphins? Oui, la question de ce dont Marianne a traité dans son sujet, le fait qu'il y a des animaux qui créent des communautés de femelles. Donc les orques, les éléphants, mais aussi les dauphins, de manière à ce que ce soit bénéfique au groupe, et notamment pour élever les enfants, etc. Enfin, les enfants, les bébés, voilà. concernant, bon, ça j'ai déjà parlé de, oui, hétérosexuel, homosexualité, j'ai déjà parlé de ça. J'ai très bien préparé cette chronique. J'ai une autre question, attention. Elle a publié un ouvrage intitulé « L'État et les droits ». Ah oui, alors je ne sais pas comment je vais faire pour faire participer les gens. Bon. Elle a publié un ouvrage intitulé « L'État et les droits des femmes », deux points, « Des institutions au service de l'égalité ». S. Delphine Marais, Sandrine Dauphin ou Marion Cétacé. Donc je vais vous faire applaudir. Alors, qui pense que c'est Delphine Marais? On a deux applaudissements. Qui pense que c'est Sandrine Dauphin? Oh, Sandrine Dauphin a beaucoup de succès. Qui pense que c'est Marion Cétacé? Ah, trois personnes. C'est Sandrine Dauphin, bien sûr. Quelle est la thématique de l'émission, enfin? Donc, docteur en sciences politiques et enseignante à l'Université Paris 3, Sandrine Dauphin, c'est des vraies infos, vraiment, propose un petit ouvrage sur les institutions qui s'occupent de politique à l'égard des femmes. En fait, c'est hyper intéressant. Elle retrace le processus qui ont conduit à la création de ces institutions et comment on a finalement canalisé certaines revendications féministes et institutionnalisé ces questions de lutte féministe, comme par exemple lorsqu'on a créé un ministère de la création féminine en 1978, et du coup elle part de cette période-là, la fin des années 70, et ensuite elle déroule jusqu'à nos jours. Encore un ouvrage que les détricoteuses n'ont pas lu, mais n'hésitez pas à le lire pour nous et nous dire s'il est bien. Et attention, j'ai une dernière question. Les delphines ont une ménopause très jeune. Qui pense que c'est vrai? Valentine pense que c'est réel. Eh bien, figure-toi que les delphines n'ont pas de ménopause. Ah, vraie info encore, qui vous stupéfait, j'en suis sûre. Le mystère est d'autant plus grand que sur 5000 espèces de mammifères, la ménopause concerne seulement 5 espèces de cétacés, en fait, dont les orques, les narvals, sans que cela concerne les dauphins. Donc voilà, chez ces mêmes cétacés, donc type de cétacé dit à dents. C'est noté comme ça, donc je vous le précise. L'idée, c'est qu'en observant ces groupes et essayer de comprendre pourquoi l'un fait une ménopause et pas l'autre, etc., on pourrait en apprendre davantage sur le mécanisme de la ménopause chez les femmes. J'adore le principe que, en fait, on n'a toujours pas compris comment marchait la ménopause des femmes. Et on se dit, tiens, on va aller observer les dauphins pour savoir... voilà, c'était ma petite chronique quiz merci, surprise.
Merci Marjo.
Et l'autre, elle monte le panneau applause complètement à l'envers.
Ah pardon. Excusez-moi. Je suis distraite.
On a du matériel de qualité sur le plateau. Couche.
Je tiens à préciser quand même qu'il y avait un code couleur bleu pour cette
que tout le monde n'a pas respecté.
Et que tout le monde n'a pas respecté.
Oui, et ces personnes sont scandaleuses. Je vous vois dans le public, vous n'êtes pas en bleu.
Mais on arrive par contre déjà à la fin quasiment de l'émission. C'est le temps, on a un petit temps à chaque fois à la fin pour présenter un peu des actus ou des choses qui se passent ou nos actus. Et là, on se disait qu'on allait laisser la parole deux minutes à... aux, import... non, vas-y.
Aux impertinentes, oui. Je vais juste intervenir un tout petit instant pour dire qu'en ce moment, il y a une expo de Chat des Blocs. Et peut-être que les impertinentes pourront en dire quelques mots. Mais Chat des Blocs, c'est une rappeuse, bah, c'est une amie bien sûr, mais c'est une rappeuse musicienne. Enfin, elle est top, elle fait des trucs vraiment super. C'est une artiste de fou. Et elle est aussi, je sais pas comment on dit, peintre, plasticienne. Créatrice. Plasticienne, ouais. Merci. Plasticienne, et elle a une expo en ce moment aux impertinentes jusqu'à une date que j'ignore. Donc venez tout de suite, venez maintenant. Je te passe la parole.
En ce moment, c'est les 1 an des impertinentes, c'est ça ?
Eh bah ben ouais, en fait, cette année, ça fait... Enfin, ce mois-ci, au mois d'octobre, le 18 octobre exactement, on fête les 1 an des impertinentes. Ça risque d'être une journée assez super parce que dans le cadre de Bar Inc, on aura deux tatoueuses qui viendront faire des flash tattoos à partir de 14h au bar. Donc Chantal Frontal et Luge de Luge qui roule qui viendront faire des flash tattoos. Donc vous pouvez réserver sur place vos flashs. Et puis le soir, on aura Emily Chius et Invité qui viendront faire une boom saut 2000. Jusqu'au bout de la nuit, c'est-à-dire le bout de la nuit aux impertinentes, c'est 1h du matin.
C'est déjà pas mal.
Et puis on a également en faveur d'Octobre Rose, donc en faveur de la lutte contre le cancer du sein, une soirée le 30 octobre avec un bingo. Et des artistes, ça va être génial, il y a des lots incroyables, enfin ça va être une soirée de fou qui a été organisée par les cercles bénévoles des impertinentes. Venez, ça va être trop bien. Et le 31, c'est le grand retour du bal des sorcières et on a la chance d'avoir comme invité Martine Letellier qui est l'ancienne présidente de Nozig et qui est une grande militante de la cause LGBT, notamment de la cause trans. Et c'est une femme vraiment formidable. Et donc ça, c'est le 31 octobre. Il y aura des paillettes, il y aura du son et ça va être vraiment super. Et puis les impertinentes, bah, là, le mois d'octobre, on a une programmation absolument incroyable. Les cercles de travail ont fait un truc incroyable avec pratiquement des événements tous les jours. Donc un mois d'octobre extrêmement chargé et festif aux impertinentes.
Trop bien, merci
beaucoup. Bon anniversaire.
Bravo. Il nous reste 30 secondes pour finaliser et dire que... si vous avez envie de participer à l'émission, en fait, là, on l'a fait nous, mais normalement, en fait, c'est les gens qui participent et qui font les créations à partir des mots qu'on donne. Et là, oui. Il reste des places.
Il reste, alors, première chose, il reste des places. Et deuxième chose, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà fait de la radio pour
bien
participer.
Sûr.
N'hésitez pas, on peut soit vous accompagner, soit vous y aller voilà, avec votre vibe, et c'est cool. Alors, prochain mot dilettante, c'est le mois de novembre. Ça tombe bien, c'est le prochain mois. Alors, il reste des places encore, donc vraiment, n'hésitez pas à vous manifester. Dilettante.
Okay.
Interprétez-le comme vous voulez. Au mois de mars, beige. Il nous reste des places aussi.
La magnifique couleur qui inspire beaucoup de gens.
Ouais. Mais malheureusement, cette émission n'a pas fait consensus, car le mot est...
consensus.
Merci, il y en a une qui suit.
Et a priori, ça n'intéresse pas grand monde le consensus, c'est plutôt rassurant finalement.
Oui. Voilà, mais justement, on peut le prendre à contre-courant, voilà, c'est ça qui est trop bien. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer.
Et il y a un dernier mot, c'est Pédiluve en juin, il reste une place, je crois. Et elle sera en direct des impertinentes aussi. Et sinon, les autres émissions que j'ai citées seront dans les studios de Jet FM, où on vous invite avec plaisir.
Et les autres sont déjà complètes. Et on s'arrête là. Et en fait, alors, Jet FM est de sortie ce soir, puisque...
Oui.
On va passer la main à HK, à leur collision, qui est une émission punk metal qui est en ce moment en direct à Beach pour le festival Soundcraft. Ils sont tout le week-end au festival. C'est un festival de musique brute, expérimentale et de bière artisanale. ils sont là-bas, on leur fait un gros coucou et on leur passe la main. Et
big up, big up, big up.
On va
big
finir
up.
Avec un petit punk pour leur faire plaisir. C'est Petit Bureau. Et à bientôt. Merci à vous.
À bientôt.